Vendredi 18 avril, la classe de première 3 du lycée Honoré d'Urfé de Saint-Étienne se rendait au Mémorial national de la prison de Montluc à Lyon. Cette sortie était la récompense attribuée au lauréat du prix Violette Maurice 2025 de la LICRA Saint-Étienne. Radio Ondaine s'est rendue sur place pour rencontrer Séverine Koprivnik, médiatrice culturelle et coordinatrice du pôle pédagogique du Mémorial de la prison de Montluc, et aussi pour échanger avec les lycéens sur ce lieu et le prix Violette Maurice de la LICRA Saint-Étienne. D'ailleurs, Anas, Madeline et Alessia nous en parlent.
Moi, j'ai été contente d'avoir le prix. Ça représente quand même un travail qu'on a fait avec toute la classe, qui représente les valeurs républicaines pour nous.
Alors justement, ce travail, avant de l'aborder, comment votre professeur vous l'a présenté, vous l'a proposé ?
C'est assez simple. Elle nous a dit, je vous inscris à un concours sur la résistance. Et après, elle nous a donné plus d'informations et on n'avait pas trop le choix non plus de pas le faire, quoi.
Madame Oudif, c'est une habituée, hein. Ça fait des années qu'elle présente ses classes pour ce prix Violette Maurice de la LICRA. Cette année, le personnage mis en avant, c'est Jean Zay. C'est qui, Jean Zay ?
C'est un homme politique qui s'est battu un peu pour la résistance, qui s'est beaucoup aussi battu pour les droits des enfants à l'école, et il a fait plein de choses surtout par rapport à l'école, et c'est ça qui était aussi intéressant de voir que ce qui est actuel, en fait, c'était beaucoup lui qui avait fait.
Alors, comment s'est passé vos travaux? Qu'est-ce que vous avez présenté? Quelle a été l'idée du projet?
Moi, j'ai présenté un journal qui reflète les pensées d'un jeune homme juif qui harcelait avec ses copains un jeune enfant musulman et qui finira par la suite par se faire harceler lui-même par ses copains. Et donc, c'est toute une histoire autour de la société, du racisme qui perdure dans l'école encore aujourd'hui. Et à la fin, donc il y a une fin heureuse et qui montre que, en fait... Ce que Jean Zay finalement voulait nous montrer, c'est que tout le monde avait une place dans l'école. Et du coup, la fin représente le message de Jean Zay en lui-même.
Nous, du coup, on a fait un poème plus axé sur vraiment l'école, puisque le sujet qu'on nous a présenté, c'était que l'école, ça devait rester en fait en dehors des conflits. Et du coup, on a pensé qu'on pourrait faire un poème sur un peu... où on a parlé des conflits humains et du coup notamment de la guerre, parce que c'était aussi par rapport à la résistance, mais aux valeurs que Jean Zay il prônait de l'école à travers ses actions.
Alors ça fait quoi de travailler dans un cadre scolaire pour quelque chose qui sort de l'école, et notamment ce prix dont les lauréats ont été primés à la préfecture de la Loire?
C'est très très intéressant, c'est vraiment intéressant, ça nous sort de ce contexte un peu scolaire, c'est un autre moyen d'aborder les choses.
Alors travailler sur un personnage tel que Jean Zay, qu'on connaît pas forcément aussi, qu'on étudie pas forcément, ça apporte quoi ?
Culture générale, je dirais, on apprend de nouvelles choses en général.
Quand on gagne le premier prix, qu'est-ce que ça fait ?
On est fiers de soi.
Ouais.
On est fiers de soi. Après, moi, je pense que ça, je suis heureux, mais je suis surtout content d'avoir pu offrir à ma classe une sortie scolaire et d'avoir. Et finalement, en fait, on a gagné tous ensemble. Il n'y a pas que moi qui a gagné, parce qu'on a tous travaillé ensemble de différentes manières, mais on s'est tous entraidés. Donc, ce que ça fait, c'est je suis heureux, mais je suis heureux pour moi et pour les autres. En fait, je suis fière de nous. Voilà.
Franchement, c'est très angoissant, et surtout, on arrive vraiment à se rendre compte avec les cellules ce que les gens ils ont vécu. Et c'est une reconstitution. Enfin, c'est les vraies cellules, donc vraiment, c'est incroyable de pouvoir visiter cet endroit. On a vraiment la chance, parce que c'est fou, même avec les inscriptions, les histoires des gens, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est terrifiant, et c'est vraiment important d'être ici. Et tout d'abord, il y a des inscriptions sur les portes avec les noms des gens, des dates, et les inscriptions des gens, on voit des familles, des femmes, des enfants qui ont 3 ans qui sont venus ici, des gens qui qui étaient juste des résistants mais qui ont juste simplement distribué des tracts et qui sont finalement morts ici, c'est horrible.
Donc Séverine Koprivnik, je suis médiatrice culturelle et coordinatrice du pôle pédagogique au Mémorial National de la prison de Montluc. Alors la prison de Montluc, elle a été construite en 1921 en tant que prison militaire. Donc si on doit décrire effectivement à vos auditeurs, on a deux grands murs d'enceinte qui ferment tout le tour du site et au cœur en fait hein, de cette ancienne prison, un espace administratif, des espaces cellulaires, donc qui étaient prévus avec des cellules individuelles pour 127 prisonniers à l'origine, et des espaces de vie comprenant des cours de promenade, un ancien réfectoire et des ateliers. Alors les prisons militaires, elles servent en fait à rendre la justice au sein de l'armée française. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une prison, il y a aussi un tribunal militaire qui a été construit juste à côté en 1921. Et donc on va y trouver hein, des militaires condamnés pour des comportements qui ont été jugés inappropriés à l'armée. Par contre, on verra qu'elles ont aussi fonction en période de guerre à assurer la sécurité du territoire. Et donc l'histoire du site est liée aussi à ce qu'on appelle la justice d'exception.
Alors son implantation ici à Lyon, pour quelle raison et d'ailleurs où est-ce ?
Alors c'est lié à une réforme notamment hein, de la justice militaire. Elle remplace une ancienne prison militaire qui existait déjà à Lyon. Mais quand on regarde effectivement dans les archives, le projet ici datait déjà de 1914. Donc finalement c'est la Première Guerre mondiale qui a empêché la construction du site qui, quand il est inauguré en 1921, clairement n'est pas dans la période où on a un fort besoin de place dans les prisons militaires. Alors sa situation géographique, on est à l'origine sur un secteur qui est légèrement habité sur le cours Gambetta, mais plutôt excentré en fait hein, du cœur de Lyon. Aujourd'hui, on est à 15 minutes à pied de la gare de la Part-Dieu, donc forcément on a l'impression d'être en plein cœur de ville, mais c'était pas du tout le cas hein, à l'époque de sa construction. Et on est situé donc en face du fort Montluc. C'est important à ne pas confondre avec la prison de Montluc, qui fait partie des anciennes fortifications de la ville de Lyon, qui ont été construites dans les années 1830.
Alors son histoire, quelle est-elle à partir de sa construction, de cette fin de Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qui s'y passe ici, tribunal militaire, on est d'accord, mais comment, entre guillemets, comment est la vie de ce lieu?
Alors bah, la prison, déjà, on l'a dit, est assez peu utilisée hein, dès son ouverture, donc elle va fermer 11 ans après. On a tenté d'en faire une prison civile, on a même loué certains de ses locaux. Finalement, avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir et les tensions en Europe, on sent qu'une nouvelle guerre pourrait se produire. Et en 1938, on va demander une rénovation complète du site pour qu'il soit en état de rouvrir ses portes hein, si le ministère de la guerre en avait besoin. Et c'est ce qui va se passer donc avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale hein, sur le territoire en 1939, hein, la déclaration de guerre à l'Allemagne nazie. Alors c'est vrai que sur toute la période d'utilisation, et même d'ailleurs quand on parle uniquement de la Seconde Guerre mondiale, il y a plusieurs utilisations du site qui vont se succéder. Dans un premier temps, la Troisième République en guerre va utiliser la prison de Montluc, bien sûr pour rendre la justice au sein de son armée, mais également, on le disait, dans le cadre de justice d'exception qui permet de faire condamner et emprisonner des civils considérés comme dangereux pour la sécurité du territoire. Donc on peut retrouver bien sûr des cas d'espionnage, mais aussi les communistes, qui à l'époque sont considérés hein, comme proches de nos ennemis du fait du pacte germano-soviétique. On va également retrouver bien sûr des personnes emprisonnées parce que la liberté d'expression, elle est réduite dans les temps de guerre. Et puis les événements de la guerre, hein, bien sûr, vont conduire, on l'a dit, à d'autres utilisations. Avec l'invasion du territoire français et la signature de l'armistice par Philippe Pétain, la prison se retrouve dans la zone non occupée, à contrario de la zone nord, hein, qui, elle, est occupée par l'Allemagne nazie, et va rapidement basculer, donc, sous le contrôle du régime de Vichy, après les pleins pouvoirs votés à Philippe Pétain le 10 juillet 1940. Et cette forme de justice d'exception qui préexistait va être réemployée par le régime, notamment pour lutter contre les premières formes de résistance. Et donc, on retrouve des résistants emprisonnés à Montluc, hein, sous Vichy, avec certains qui sont même assez jeunes. Hein. On a le cas de lycéens de Macron, qui ont distribué des tracts par exemple et qui vont écoper de 6 mois d'emprisonnement ici, loin de leur famille. C'est un site aussi qui va connaître déjà des formes de surpopulation avec plus de 300 prisonniers pour les 127 places que j'évoquais tout à l'heure. Et puis on a un nouveau basculement bien sûr avec l'arrivée des autorités allemandes. Hein. Elles envahissent unilatéralement la zone sud le 11 novembre 1942 et vont s'intéresser du coup à la réquisition de la prison de Montluc, qui bascule totalement dans le giron allemand le 17 février 1943. Là, effectivement, tout le monde a en tête Klaus Barbie, le chef de la Gestapo, mais il n'avait pas ses bureaux ici. Officiellement, on était une prison militaire allemande. Donc la surveillance et l'intendance du site étaient faites par l'armée allemande, mais la grande majorité des personnes qu'on va retrouver enfermées à Montluc ont bien été arrêtés par les polices politiques nazies, dont la Gestapo, dont les bureaux se trouvaient près du centre de Lyon.
On nous a dit que les lits, ils ont été démontés suite à une évasion. Du coup, ils dorment sur des sacs à l'intérieur, il y a de la paille, sur des paillasses. Ça nous évoque de la claustrophobie. Franchement, on se sent très, très serré ici, ça fait peur.
C'est très angoissant.
Après la libération de Lyon le 3 septembre 1944, on a besoin de prison, mais pour enfermer du coup les criminels de guerre et les collaborateurs. Donc il y a toute cette période de l'après-guerre, où Montluc redevient d'ailleurs très rapidement une prison militaire, où on va avoir des grands procès, notamment de la Gestapo dans les années 50, et l'emprisonnement effectivement de criminels de guerre nazis jusqu'à la fin des années 50. Néanmoins, la nouvelle page de l'histoire de la prison, et qui lui a permis de fonctionner aussi récemment, s'ouvre en 1947, avec la fin des prisons militaires, spécifiquement en France. On a l'arrivée de détenus de droit commun sur ce site, qui devient une maison d'arrêt pour hommes. C'est une prison pour hommes pendant les premières années, mais dès 1958, on va déplacer la maison d'arrêt pour femmes également dans ses murs, ce qui fait qu'il y a comme deux prisons finalement, une prison homme et une prison femme qui vont se côtoyer sur le site, avec la fermeture de la prison des hommes qui interviendra en 1997 et la fermeture de la maison d'arrêt pour femmes le 3 février 2009. Néanmoins, je vous parlais tout à l'heure de justice d'exception, du tribunal militaire. Pendant cette période de prison civile, une guerre qui ne dit pas son nom va marquer les lieux. C'est la période de la guerre d'indépendance algérienne, où les tribunaux militaires ont condamné des indépendantistes algériens. Et Montluc était à l'époque le quartier des condamnés à mort de la ville de Lyon et le lieu officiel des exécutions. Donc entre 1958 et 1961, il y a 11 indépendantistes algériens, membres du FLN, Front de Libération Nationale, qui seront guillotinés dans l'enceinte de la prison de Montluc, ce qui en fait un des plus gros lieux d'exécution en France métropolitaine quand on parle de la guerre d'Algérie.
Alors si l'on reste sur cette partie plus récente de son histoire, les cellules, ça ressemble à quoi ?
Alors les cellules, pour la partie qui se visite aujourd'hui, ont conservé leurs caractéristiques d'origine. Elles font 2,20 m sur 1,80 m. Donc imaginez une cellule de 4 mètres carrés, c'est vraiment pas très grand, avec un aménagement assez sommaire, puisqu'il n'y a pas l'eau courante dans ces cellules, pas de toilettes. Donc on utilise un seau hygiénique pendant toute l'histoire de la prison dans ces espaces. Et puis après, c'est vrai que d'un point de vue architectural, si on peut dire, cette prison n'a pas de très grande qualité. Elle a été construite en mâche ferme, mais on y retrouve toutes les caractéristiques de ces anciennes prisons, avec un toit en verre qui permet d'apporter une lumière naturelle à travers des grands couloirs ajourés de grilles au centre et des coursives assez étroites.
Si l'on reste sur les témoignages de personnes qui sont passées par là, quels sont-ils ? Y en a-t-il beaucoup des témoignages ?
Alors oui, il y a des témoignages, donc quand on parle effectivement de l'occupation allemande, qui ont été publiés ou enregistrés. Le mémorial d'ailleurs a aussi fait une campagne d'enregistrement vidéo de plusieurs rescapés en 2010, à l'ouverture du site. Donc ils ont, si on peut dire, différents supports. Et puis il y a aussi des témoignages, si on peut dire, qu'on trouve encore gravés sur le lieu, dans les portes, des choses qui ont été inscrites sur les murs et qui sont finalement une marque aussi du témoignage sur l'instant d'une personne qui a voulu dire qu'elle était là, qu'elle était enfermée ici.
Alors vous vous arrêtez dans cette cellule précisément avec le portrait d'André Devigny. Qui est-il ?
C'est le seul détenu qui a réussi à s'échapper de la prison de Montluc. Il était sous-lieutenant. Il a été arrêté le 17 avril 1943. Il a été torturé et il a essayé de s'échapper une première fois. Mais ça n'a pas marché, donc il s'est blessé. Et après, il a été incarcéré dans la cellule 107. Et il s'échappe en créant des cordes avec la matière de son lit. Après son évasion, il va à Alger par l'Espagne. Et il va aider en août 1944 au débarquement de Provence. Et avec la première armée française, il remonte par Lyon vers l'Allemagne. Et après la guerre, il va continuer sa carrière militaire et il passera de sous-lieutenant jusqu'au grade de général de brigade.
On revient sur la période de la Seconde Guerre mondiale, et c'est notamment la visite de ce jour avec ces lycéens du lycée Honoré d'Urfé de Saint-Étienne, cette partie mémoriale. Comment s'organise la visite? Comment s'organisent les espaces?
Alors on a un premier temps toujours de contextualisation ici, parce qu'on se confronte à un lieu qui a servi pendant longtemps avec des traces de différentes époques. Donc c'est important que les élèves connaissent l'histoire du site entre 1921 et 2009 et aussi les circonstances de la création du lieu de mémoire, puisque la prison a été mise en vente à sa fermeture. Elle était menacée de destruction, et c'est le combat mené par les rescapés, notamment l'association des rescapés de Montluc, qui a permis de la faire inscrire au titre des monuments historiques en 2009. Et le ministère des armées, du coup, a financé l'ouverture de ce lieu de mémoire en 2010. Donc c'est ce premier temps de contextualisation qui va poser un peu les bases de ce que les élèves vont voir par la suite. Ensuite, il faut bien sûr reprendre le fonctionnement de la prison sous l'occupation allemande pour bien comprendre quel est le rôle de ce site, puisqu'on aurait peut-être tendance à, bien sûr, quand on parle de ce qui se passe dans les cellules, à regarder le fonctionnement de Montluc, mais c'est important que les élèves aient aussi une image plus globale. Montluc, c'était un maillon effectivement très important de la chaîne qui organisait les déportations par mesure de répression et par persécution du territoire français. Il y a près de 10 000 personnes qui ont été internées ici en un an et demi, dont la très grande majorité vont être transférées dans la région parisienne et déportées. C'est à la fois du coup un lieu où on parle des mémoires juives, puisque Montluc a joué un rôle dans le génocide des populations juives, et puis bien sûr un lieu aussi qui est lié à la mémoire de la résistance, puisque de nombreux résistants ont été également internés ici. Donc quand les élèves ont bien compris le fonctionnement du lieu, on peut rentrer là vraiment au cœur du lieu de mémoire, cet espace cellulaire, pour rentrer, si on peut dire, dans le quotidien de ce que les gens ont vécu pendant les temps d'internement ici, avec toute la nuance qu'on peut apporter, nous, avec notre connaissance historique du site, puisqu'un prisonnier qui a témoigné de ce qu'il a vécu sur les premiers mois de l'année 1943 va pas connaître tout à fait les mêmes conditions de vie que quelqu'un qui était ici sur les derniers mois avant la libération en 1944.
Alors vous évoquiez Klaus Barbie tout à l'heure, on peut aussi parler de Jean Moulin, des personnages qui sont reliés à ce lieu.
Alors justement, le mémorial est constitué en fait de portraits avec des biographies qui sont présentées dans les cellules actuellement, et ce parcours en fait nous conduit à observer d'abord tous les visages des victimes, dont certains sont anonymes et d'autres plus connus. Vous avez cité Jean Moulin, il y a également un espace qui est dédié aux enfants d'Izieux, et la fin de ce parcours en fait se clôture par une photo de Klaus Barbie prise en 1983 à la prison de Montluc après son arrestation. Donc il y a ce symbole de la justice, et effectivement le procès de Klaus Barbie de 1987 résonne dans beaucoup de portraits qui sont présentés ici, puisqu'il y a également des photographies de personnes qui ont été témoins lors de ce procès et qui ont raconté leur histoire. On parlait tout à l'heure notamment de témoignages. Ces témoignages dans un cadre judiciaire sont aussi très intéressants pour nous. Et donc parcourir ces cellules, pour les jeunes, c'est se confronter véritablement à des lieux qui ont assez peu changé, dans lesquels la voix des rescapés résonne encore beaucoup, malgré leur disparition, puisqu'aujourd'hui, on est, il faut le dire, dans une nouvelle tranche de vie du mémorial. Avec la disparition des derniers témoins, on n'a plus cette transmission directe qui se fait aux élèves maintenant sur le site.
Je suis en train de lire une traduction d'une archive. À propos du démantèlement du comité juif, l'Union Générale des Israélites de France. Ce qui me marque vraiment, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de familles et qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes enfants et des gens qui sont dans la vie courante. Enfin, par exemple, il y a des marchands, il y a des gens qui sont professeurs. Enfin, c'est vraiment des gens du quotidien, enfin, des métiers, enfin, qui ont des métiers communs. Et c'est ce qui est choquant, puisque c'est pas forcément... Enfin, certes, il y a des résistants, donc je dis pas que c'est justifié, mais je dis que par rapport aux nazis, c'était un peu leur justification, mais le fait qu'il y ait des familles innocentes qui travaillaient juste, bah, ça fait de la peine.
Lorsqu'on donne beaucoup d'informations aux élèves, il y a vraiment quelque chose qui est très important aujourd'hui dans l'éducation des jeunes, c'est aussi de comprendre d'où vient l'information. C'est un espace pédagogique qui est pensé en complément de la visite. Et donc ce temps complémentaire à la visite, ça va être de leur proposer en fait de eux-mêmes expérimenter la démarche historique avec des documents d'archives, très souvent pour retracer le parcours de personnes qui ont été internées à la prison de Montluc. Donc on a des documents qui ont été pris en photo par les équipes du mémorial dans différents centres d'archives, qui ont été donc réimprimés et dont les élèves disposent pour essayer eux-mêmes de réaliser cette enquête et de comprendre le fonctionnement de Montluc à travers la petite histoire, si on peut dire, à travers des itinéraires individuels. Et c'est aussi l'occasion d'un temps d'échange, puisque souvent, dans l'espace notamment cellulaire, les élèves sont assez impressionnés par le lieu. Quelquefois, ils ont besoin d'un peu de temps pour digérer tout ce qu'ils ont entendu, parce qu'on parle de choses qui sont difficiles, on parle de génocide, on parle de résistants qui ont été torturés. Et donc, c'est important d'avoir ce temps aussi où les élèves sont posés dans une salle pour pouvoir entendre leurs questions qui se viennent peut-être quelquefois un peu après ce temps de visite. Pour nous, c'est rappeler aussi bien les objectifs pédagogiques fondamentaux du lieu. On est vraiment dans un espace où on va parler de la Shoah, de la résistance. Et c'est important pour nous que les élèves repartent en ayant une vision très claire de ce qu'a été la prison de Montluc pendant cette période de l'occupation.
Il faut qu'on cherche la date de naissance, l'adresse. En fait, elle nous a donné des documents et on doit faire une enquête à peu près comme la police.
On a des photographies avec, des photographies avant la guerre, des photographies de l'état civil.
Là, du coup, on doit chercher la photo de la personne en question, la date, l'adresse et plusieurs questions, en fait.
Si l'on reste dans cet esprit pédagogique, à partir de quel niveau scolaire vous accueillez ces élèves ?
Alors, c'est vrai qu'en France, la Seconde Guerre mondiale, elle s'étudie sur le cycle CM1-CM2. Donc, on accueille des élèves qui sont très jeunes. Après, c'est bien sûr des visites qui sont adaptées, mais néanmoins, on évoque tous les aspects quand même de l'histoire du site avec eux. Donc, on va dire vers l'âge déjà de 10 ans, les élèves peuvent venir sur le site ou accompagnés aussi de leur famille. Et puis après, on a beaucoup d'élèves de 3e, c'est encore au programme, des élèves de 1ère et de terminale. On a la chance aussi que la prison de Montluc ait des liens privilégiés avec le milieu universitaire. On est juste à côté de la grande université Jean Moulin, Lyon 3, et l'université catholique de Lyon est installée dans les deux anciennes prisons de Lyon, Saint-Paul et Saint-Joseph également. Donc il y a des liens historiques aussi qui existent. Et puis on touche aussi un public pédagogique plus large avec d'autres structures que des structures scolaires, des centres sociaux par exemple, qui vont aussi amener des jeunes, les conseils municipaux des jeunes, tous ceux qui peuvent être intéressés par l'histoire du site ou qui viennent dans une démarche pédagogique.
Si l'on considère maintenant l'ouverture au grand public, une période de travaux a eu lieu, comment on visite, comment faut-il faire ?
Alors, vous avez des visites guidées et puis des temps où on peut visiter librement les lieux. Donc déjà, il faut savoir que toute la journée du mardi et les matinées sont réservées uniquement au public scolaire et aux groupes qui sont encadrés. Et les visiteurs individuels ont accès au site du mercredi au vendredi de 14h à 18h avec une visite guidée à 16h qui dure 1h30 quand même et qui permet d'aborder effectivement beaucoup des aspects que j'ai déjà évoqués dans notre interview. Et puis, on ouvre un peu plus largement le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, ce qui nous permet aussi d'avoir une programmation culturelle à destination du public individuel avec des visites guidées thématiques. On propose aussi des ciné-musées, il y a les expositions bien sûr temporaires qui sont aussi accessibles sur ces temps d'ouverture au public. Et il faut savoir que l'entrée, les activités qui sont proposées, tout ça est encore entièrement gratuit.